Aide-nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Vous écoutez KTO Radio. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonsoir à toutes et tous. Comme chaque samedi, je vous le dis, je suis très heureux de débuter cette soirée en votre compagnie. Ce soir, trois nouveaux candidats, des garçons qui sont aussi à l'IPC. Vous savez que c'est une spéciale étudiant pour le mois d'avril. Ils ont hâte de commencer dans la foi et la bonne
humeur.
Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois.
Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de voyage culturel, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 euros.
Comme moi, vous êtes impatient que le jeu commence. Alors c'est maintenant, tout de suite, c'est la première manche. Première manche, les premiers pas. J'aime beaucoup cette première manche parce que ce sont effectivement les premiers pas de mes trois candidats ce soir, Henri, Rémi et Louis. Et c'est Henri qui va commencer. Bonsoir Henri. Bonsoir. Comment allez-vous ?
Bah, très bien, très bien.
Alors, comme mes candidats de la semaine dernière, vous êtes à l'IPC.
C'est ça.
En quelle année ?
En première année.
Première année. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire plus tard ? Tout le monde doit vous poser cette question.
Non, pas d'idée.
Pas encore ?
Pas encore d'idée, non.
Alors, vous trouvez ça sympa, cette école ?
Ah oui, vraiment, vraiment.
Donc la philosophie, c'est votre dada, il n'y a pas d'autre ?
Oui, non, il n'y a pas d'autre.
Alors, d'où venez-vous, mon cher Henri ?
De Bretagne, du Morbihan, exactement.
Ah, est-ce que vous êtes près ou loin de Quiberon ? Vous êtes où, exactement ?
De Sainte-Anne-d'Auray.
Ah oui, donc vous êtes... C'est très joli, en plus.
Oui.
C'est bon, joli. Quand même.
Oui, oui, c'est joli.
Alors, vous avez des engagements dans une association ou dans un mouvement, quel qu'il soit ?
Je suis engagé dans le pôle spirituel de l'IPC.
D'accord.
Et aussi au pôle échec de l'IPC.
Ah, bravo !
Et sinon, l'IPC nous fait beaucoup travailler, donc...
Oui, c'est un message, il n'a plus assez de temps pour faire autre chose à côté. Bon, Henri, je vais vous poser quelques questions pendant 2 minutes, essayez de marquer le plus de points possible. Vous êtes prêts ?
Oui.
Alors, allons-y. Quelle fête a lieu le 6 décembre ? La Saint-Étienne, la Saint-Nicolas ou le premier dimanche de l'Avent ?
La Saint-Nicolas.
Effectivement, la Saint-Nicolas. Nicolas est le patron des enfants, mais c'est aussi le vrai Père Noël, si jamais je peux me permettre. Vous marquez un point. Pour le bicentenaire du rétablissement des Jésuites, qui a écrit en 2015 une messe pour le pape François, interprétée par l'Orchestre Symphonique de Rome ? Ennio Morricone, Pierre Boulez ou Arnold Schoenberg ?
Réponse C.
Non, c'était Ennio Morricone. La deuxième partie du Sanctus vient des rameaux et la première, Deus Sabaoth, du chapitre 6 de la Genèse, du chapitre 6 de Isaïe ou du chapitre 6 de Galates.
Chapitre 6 d'Isaïe.
Excellente réponse. Quelle association internationale de fidèles engage à l'adoration eucharistique la compassion et l'évangélisation ? La communauté de l'Emmanuel, les auxiliaires du sacerdoce ou les Clarisses ?
La communauté de l'Emmanuel.
Bonne réponse. Henri, vous marquez votre troisième point. Qui est l'auteur de « L'amour de Jésus en Marie » et du « Secret de Marie » ? Jacques Maritain, Michel de Montaigne ou Louis-Marie Grignon de Montfort ?
Louis-Marie Grignon de Montfort.
Excellente réponse. Qui est la Norma, personnage de l'opéra de Bellini ? Une carmélite, une prêtresse des druides ou une gitane ?
Une carmélite.
Non, c'est une prêtresse des druides. Quel ministre français est en charge des cultes ? Aucun, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Éducation ?
Aucun.
Ah non, c'est rattaché au ministre de l'Intérieur. Quel évêque fut le prédécesseur de Jean-Marie Lustiger à l'archevêché de Paris ? François Alex, François Melman ou François Marty ?
François Melman.
Non, il s'agissait de François Marty. Henri, vous marquez 4 points, bravo, dans cette première manche. Et sans plus attendre, j'accueille Rémi. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Donc vous êtes aussi en première année, je le disais, à l'IPC ?
Oui, en licence de philosophie, oui.
Licence de philosophie. Je vous pose la même question qu'à Henri. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire ?
J'aimerais bien être prof de philo, oui.
Très bien. Avec une passion dans, ce grand spectre qu'est la philosophie ?
Oui, exactement, oui.
D'accord. Est-ce que vous avez un engagement ? Vous soutenez une cause, une association dont vous voulez nous parler ?
Je suis dans le pôle débat parlementaire à l'IPC et je fais les maraudes dans ma paroisse, donc à Saint-Léon, dans le 15e.
Très bien. Je suis pas très loin de Saint-Léon, moi. Rémi, comme Henri, nous passons 2 minutes ensemble et vous essayez de marquer le plus de points possible. Vous êtes prêts ?
Oui.
Alors, sans plus attendre, c'est parti. Dans l'expression « Qui déshabille-t-on pour habiller Paul ? Saint-Pierre, Saint-Jacques ou Saint-Frusquin ?»
Saint-Pierre.
Bonne réponse. Qui tient le plus long discours des Actes des Apôtres ? Étienne, Marc ou Pierre ?
C'est Marc.
Non. C'est Étienne. En quelle année eut lieu la manifestation massive qui sauva l'enseignement libre en France ? 1982, 1984 ou 1986 ?
1984.
Excellente réponse, c'était contre la loi Savary. Sous quel nom Bernadette Soubirous a-t-elle été canonisée en 1933 ? Sœur Marie Bernard, Sœur Marie Kérouz ou Sœur Marie-Simon-Pierre ?
Sœur Marie-Simon-Pierre ?
Non, Sœur Marie-Bernard. Qui a écrit « La Bible est une lettre personnelle adressée à chacun de nous par Dieu » ? Julien Green, Julien Gray ou le clown Grock ?
Julien Gray ?
Non, c'est Julien Green. Qui jouait un curé mexicain finançant son orphelinat en devenant professionnel du catch dans « L'homme au masque d'or » en 1991. Christian Clavier, Bourville ou Jean Reno ?
Jean Reno.
N'hésitez pas, c'est une bonne réponse, Rémi. Quel est le nom de la seule émission française du livre spirituel et religieux à la télévision ? La Grande Librairie, L'Esprit des Lettres ou Lire la Bible ?
L'esprit des lettres.
Bonne réponse, vous marquez votre 4e point. Quelle abbesse du XIIe siècle décrivit plus de 300 plantes ? Hilgarde de Bingen, Marie de Ligne Barbançon ou Isabelle de Grobendonck ?
Isabelle de Grobendonck ?
Non, il s'agit de Hildegarde de Bingen. Et vous marquez 4 points, vous êtes à égalité avec Henri. Et je reviens sur Bernadette de Soubirous, qui était sœur Marie Bernard. C'était son nom de sœur de la charité de Nevers, dont elle est originaire. Je reviens sur Bernadette Soubirous. Effectivement, elle était sœur Marie Bernard. C'était son nom de religieuse quand elle était dans la congrégation des sœurs de la charité de Nevers. Je voulais vous apporter cette précision. Rémi et Henri, vous êtes à égalité avec 4 points. J'accueille maintenant Louis. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Vous avez compris que si vous voulez sélectionner des questions pour la deuxième manche, il faut que vous dépassiez ces 4 points. Alors Louis, vous êtes à l'IPC.
Absolument.
En première année.
En troisième année.
Troisième année, vous pardon. Voilà. Donc vous êtes un peu plus avancé sur ce que vous voulez faire ?
Oui, je vais aller travailler dans une entreprise de mise en bouteille de vin dans ma région, chez moi.
Très bien. Parce que dites-nous, vous êtes originaire ?
De Saint-Émilion, enfin juste à côté de Saint-Émilion.
Vous voulez rester près de votre famille et dans cette région que vous affectionnez particulièrement ?
Absolument.
Est-ce que vous avez un message ou une association, un engagement dont vous voulez nous parler ?
Bien, je suis chef de troupe à la troupe 15e Paris.
Voilà, très bien.
Que je salue.
Bah, très bien. Louis, c'est parti. Soyez fort. Quel nom porte une bougie dont l'usage est exclusivement réservé à un culte ? Un réverbère, une torchère ou un cierge ?
Un cierge.
Bonne réponse. C'est la réponse C. À la Saint-Vincent, qui est le 22 janvier, ne sors pas tes enfants, lave-toi aussi les dents, ou l'hiver monte ou descend ?
L'hiver monte ou descend.
Bonne réponse. Qui demanda en 1471 que tous les Français récitent chaque jour 3 Ave pour la paix du royaume ? Louis XI, Marie de Médicis ou Grégoire de Tours ?
Louis XI.
Bonne réponse. C'est le hasard ?
Là, oui.
Quel est le mois du rosaire ? Mai, août ou octobre ?
Octobre.
Excellente réponse. 4 points à présent. Avec qui le pape François a-t-il parlé de la foi le 26 octobre 2017 comme Benoît XVI en 2011? Avec le recteur de l'université Al-Azhar, avec les responsables de la convention baptiste du Sud ou avec les astronautes dans l'ISS?
Avec, je dirais, la réponse B.
Eh bien non, avec les astronautes, mon cher Louis. Selon la légende, Marie Harel aurait reçu du prêtre réfractaire qu'elle cachait le secret de l'affinage donnant naissance au Roquefort, au Camembert ou au Cabécou.
Au Cabécou?
Et non, c'est au Camembert. Qu'est-ce qui commémore la montée au ciel de Marie? L'Assomption, l'Ascension ou la Pentecôte?
L'Assomption.
C'est une excellente réponse. On est attiré par quelqu'un. C'est l'Assomption, réponse A. Comment appelait-on un collier en côte de maille couvrant le cou, les épaules et la partie supérieure de la poitrine du dos? Un col à maillard, un collier d'évêque ou un joug laïc?
Un joug laïc, non.
Non, c'est un collier d'évêque. Vous marquez 5 points, cher Louis. Vous êtes donc sélectionné pour choisir deux thématiques dans la manche qui suit, mais il va falloir départager Rémi et Henri avec une question. Le plus rapide buzz et donne la réponse. Êtes-vous prêt?
Oui.
Combien Noé avait-il de fils?
3.
Très bien. Avez-vous les prénoms?
Sem, Jam, Japhet.
Bravo, c'est une excellente réponse, vous avez gagné votre point. C'est donc vous, Henri, qui allez choisir un thème pour la manche 2. Donc, sans plus attendre, passons à cette deuxième manche tant attendue, qui est celle qui amène à la finale. La deuxième manche, je suis toujours accompagné de Henri, Rémi et Louis, en chemin vers la finale. Mon cher Louis, vous allez devoir choisir deux thématiques parmi les 6 que je vous propose. Écoutez-moi. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Louis, quels sont vos choix?
Je vais choisir liturgie, sacrement et prière.
Très bien.
Et art, culture et foi.
Merci. Henri, votre choix?
Bible.
La Bible. Nous avons les 3 thématiques. Nous allons remettre vos compteurs et vos scores à 0. Et c'est parti pour cette deuxième manche. Liturgie, prière et sacrement. Vous êtes prêts?
Oui.
Ai-je été composé dans une abbaye allemande par l'évêque de Compostelle ou celui du Puy en Velay? Je suis si âgé que je ne m'en souviens pas. Les dominicains me chantent depuis 1221, les cisterciens depuis 1251. Les chartreux, chaque jour lors des vêpres. Léon XIII en a prescrit la récitation. L'air a souvent changé. Polyphonique avec Pergolèse. Plus contemporain avec Poulenc. Les paroles, elles, vénérables prières des enfants d'Ève exilés dans une vallée de larmes, n'ont plus bougé depuis que Saint Bernard a ajouté la finale. Ô Clemens, ô Pia, ô Dux Virgos Maria.
Salve Regina.
C'est une excellente réponse, Louis. Vous marquez votre premier point. Art, culture et foi. Je suis un peintre religieux dont vous cherchez le surnom. J'ai reçu ma première formation dans un monastère crétois et ai plus tard travaillé avec Titien et Tintoret à Venise. Mon style appuyé, Henri. Oui.
Véronèse.
Ce n'est pas véronèse. Rémi et Louis. Mon style synthétise ainsi des apports orientaux et occidentaux, ce qui n'a pas convaincu les mécènes romains. En 1582, le roi d'Espagne refuse même le retable qu'il m'avait commandé pour l'Escurial. J'ai davantage de succès à Tolède. On m'y commande beaucoup de retables et pour la dévotion privée, des portraits de saints, souvent extatiques, dans leurs prières. La génération romantique a redécouvert ces toiles et aimé leur spiritualité dramatique. Je m'appelais Dominico Theotokopoulos, ce qui m'a valu mon surnom. Avez-vous une idée, Rémi et Louis, de la personne dont il s'agit? Oui.
Michel-Ange.
Ce n'est pas Michel-Ange. Louis, au hasard.
Le Caravage.
Non, c'était El Greco. Question relative à la Bible. Je suis le lieu où se déroula un événement majeur et primordial pour les Hébreux, et donc pour les chrétiens, un événement commémoré et chanté par des psaumes et des prophètes, par une fête, un événement à la fois concret et d'une grande signification spirituelle. En ce lieu, de nombreux moururent et de nombreux commencèrent une vie nouvelle. En ce lieu, un puissant vit la limite de sa puissance et un homme modeste triompha parce qu'il avait mis sa confiance dans le Seigneur. Le grand miracle de libération se manifesta sous la forme d'un fort vent d'est qui me sépara en deux murailles.
La traversée de la mer Rouge.
C'est une bonne réponse. La mer Rouge, effectivement. Louis et Henri, vous êtes à égalité avec un point. Rémi, il faut débloquer votre score avec une question relative à la liturgie, prière et sacrement. Notre fête a lieu 40 jours après Noël. Le pape Gélase Ier l'a instituée pour remplacer les fêtes romaines de la fin de l'hiver, de la fin de leur année. Les Romains organisaient en effet des processions en février afin de purifier la terre. Et le 15 février avait lieu les Lupercales, une fête de purification destinée à raviver la fécondité en libérant les forces vitales. Les excès de ces fêtes païennes incitèrent donc le pape à organiser en lieu et place d'autres processions avec nous et notre bénédiction dans les églises. Ceux qui reçoivent des coups voient, selon l'expression, 36 d'entre nous. Si l'on en doit une fière, c'est un cierge.
La chandeleur ?
C'est une bonne réponse, les chandelles ou la chandeleur, mais vous aviez dit les chandelles, je l'ai entendu. Vous marquez votre deuxième point, nous allons maintenant passer à une question art, culture et foi. Au temps visigothique, deux illustres de mes archevêques s'appelaient Saint Léandre et Saint Isidore, et ils figurent aujourd'hui encore sur mon blason, entourant le roi Ferdinand III de Castille, conquérant de la ville en 1248. La Giralda, clocher de ma cathédrale, est un ancien minaret. Marqué par une intense religiosité, je célèbre tout au long de l'année divers saints patrons locaux.
Séville.
C'est une excellente réponse. Il s'agit de Séville. La plus célèbre et la plus importante festivité chrétienne est la Semaine Sainte, la plus fameuse d'Espagne. Elle attire des centaines de milliers de croyants et de non-croyants qui viennent admirer les processions des 57 confréries de la ville. La semaine atteint son paroxysme lors de la Madruga, dans la nuit du jeudi au vendredi saint. On vient aussi de loin pour voir mon Alcazar, monument le plus visité d'Espagne. Je suis Séville. C'est terminé, chers amis. Henri et Louis se sont sélectionnés. Rémi, vous n'avez pas débloqué votre score, mais ce n'est pas grave. Regardez ce que l'on vous offre.
Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Libre et Icône.
Comme Rémi, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est assez simple. Je vais vous poser une question, il faut y répondre. Quelle prière du matin commence ce dialogue ? Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Vous avez la bonne réponse, envoyez-la avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous contacter à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com. Et je me réjouis de vous retrouver sur le plateau. Rémi, c'était pas pour aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave.
Oui.
Est-ce que vous avez aimé votre participation ?
Oui, c'était super, oui.
Vous allez en garder un bon souvenir ?
Oui, très bon.
C'est la première fois que vous veniez sur un plateau de télé ?
C'est la première fois, oui.
Alors, vos impressions ?
C'est spectaculaire.
Spectaculaire ?
Spectaculaire.
Alors, allez dire à tous vos amis de venir nous rejoindre. Merci beaucoup, Rémi. Et sans plus attendre, nous allons passer à la finale du jour. entre Henri et Louis. À chaque émission, je trouve qu'on est trop vite à l'heure de la finale. C'est déjà le moment de départager Henri et Louis pour savoir qui des deux viendra nous rejoindre à la grande finale à la fin du mois. J'ai les thématiques entre les mains. Elles sont là. Je les mélange. Et je vais demander à Henri d'en choisir une. Henri, dites-nous tout.
Le rosaire.
Le rosaire. Tac. Henri, vous avez choisi le rosaire. Louis, il vous l'impose et c'est parti pour cette question pour la finale du jour. Et le vainqueur me retrouvera dans 15 jours à la grande finale du mois. Vous êtes prêts, messieurs ?
Oui.
Alors, c'est parti. À quel fleuve fait référence le premier mystère lumineux ?
Le Jourdain.
C'est une excellente réponse, Henri. Il s'agit du Jourdain. Qui la Vierge Marie visite-t-elle selon le deuxième mystère joyeux ?
Sa sœur Élisabeth. Sa cousine Élisabeth.
Sa cousine Élisabeth, c'est une bonne réponse. Louis, il est rapide, hein ?
Il est rapide.
Faut débloquer votre corps. Quel mystère lumineux, au sens littéral, évoque le quatrième mystère lumineux ?
La transfiguration.
Waouh, vous êtes impressionnant, Louis. La transfiguration, nous sommes à 3-0. Si vous marquez ce point, vous êtes le vainqueur. Que subit Jésus lors du troisième mystère douloureux ?
Le couronnement d'épines.
Eh bien là, il n'y a pas photo, c'est le couronnement d'épines. Vous êtes donc le vainqueur du jour et sélectionné pour la grande finale à la fin du mois. Que commémore le premier mystère glorieux, mystère majeur pour la foi chrétienne ?
Résurrection.
La résurrection. Où Jésus est-il retrouvé selon le cinquième mystère joyeux ? Au temple.
Au temple.
Et de quel sacrement, source et sommet, le cinquième mystère lumineux commémore-t-il l'institution, l'Eucharistie ? C'est un très bon score, c'est 4 à la suite. Henri, bravo, vous êtes donc le finaliste. Mais Louis, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez le cadeau que nous vous offrons.
La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 euros.
Louis, vous n'êtes pas trop déçu ?
Ah non,
Vous avez gagné une jolie médaille. Est-ce que vous allez partager avec vos amis et votre famille le fait de peut-être en inciter à venir participer à ce jeu ?
Bah oui, j'en parlerai à l'IPC notamment.
À l'IPC, et parlez-en à Saint-Émilion !
Oui.
Est-ce que vous voulez passer un message avant de nous quitter ?
Eh bien, je salue le Sud-Ouest et la 15e Paris.
Très bien. Merci beaucoup, Louis. Vous avez été un chouette concurrent. Henri, bravo. Alors là, sur cette finale, vous m'avez impressionné. Non seulement vous aviez les bonnes réponses et la rapidité. Vous êtes content d'être sélectionné pour la finale à la fin du mois ?
Très content, oui.
On se retrouve dans 15 jours. Est-ce que vous voulez passer un message ? Non ?
Non.
Alors, c'était pas grave. Moi, il est déjà le temps de nous quitter. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, ça passe beaucoup trop vite. On se retrouve samedi prochain. Mais en attendant, vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Chers amis, passez une excellente soirée. On se retrouve samedi avec 3 nouveaux concurrents de l'IPC. Passez une excellente semaine. Faites attention à vous, mais aussi aux autres. À bientôt.
Tu restes toujours irrité contre nous. De carême de cette année, elles ont été consacrées à déchiffrer le message que Dieu veut faire entendre au monde par Notre-Dame. Et nous nous sommes, comme le carême nous y invite, nous nous sommes exercés aussi bien sur le déchiffrement du texte du Magnificat, typique de l'évangile de Marie, que la sacramentalité du chant liturgique qui nous fait communier avec le Seigneur, apprendre à écouter la voix de l'orgue, à déambuler dans l'espace de la cathédrale et à réaliser ce chemin inouï d'une vierge à l'autre, de la crèche au crucifiement. Tout cela nous permet d'être en bonne forme pour affronter aujourd'hui un texte difficile et prodigieux dans l'Apocalypse, la vision de la femme et du dragon que nous lisons pour la fête du 15 août. Pour nous faire entendre ce soir le texte de l'Apocalypse, Catherine Salvia, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, a bien voulu nous rejoindre. Et notre guide est Régis Burnet, bien connu des Parisiens. Il est normalien, critique littéraire, bibliste, enseignant à la faculté catholique de Namur et anime depuis des lustres maintenant l'animation La foi prise au mot sur KTO. Avec une telle parole et un tel guide, nous allons pouvoir regarder cette vision, nous l'approprier et peut-être en témoigner. Merci à vous.
Marie, reine de la paix. Tel est le thème qui a réuni les conférenciers tout au long de ces 6 dimanches de carême. Il en faut du courage pour proposer un tel thème aujourd'hui. Pardon de la banalité, mais regardons autour de nous, où est-elle la paix ? Ne parlons même pas de la définition maximale de la paix, celle de la concorde universelle. Qui y croit encore ? Mais même en se contentant de chercher l'absence de guerre, quelle région du monde peut se glorifier de la connaître, cette absence de guerre ? Il y a 2000 ans, un homme du nom de Jean connaissait déjà cette impression de perdre le monde dans lequel il vivait. Comme il nous le dit au début de son livre, l'Apocalypse, il se trouvait relégué à Patmos lorsque lui vint une révélation, une série de visions qu'il mit par écrit. Les premières pages, écrites sous la forme de lettres aux églises chrétiennes, décrivent une situation tout à fait catastrophique. À Smyrne, on connaît la pauvreté et on subit la persécution. À la Odyssée, au contraire, on a cédé au soft power de l'Empire romain et on fait des affaires. À Pergame et à Thyatire, on se complaît dans l'immoralité et l'erreur. À Sardes, on fait encore semblant de croire, mais à la vérité, on sait déjà qu'on est mort spirituellement. Et à Philadelphie, enfin, on vit dans l'angoisse. Un joli monde qui n'a vraiment rien à envier au nôtre. Devant notre monde, en effet, les plus jeunes d'entre nous hésitent, tremblent. Qui sait si cette génération ne verra pas la destruction totale du globe? La fin de la planète bleue, l'Armageddon, ne sont-ils pas à nos portes? Alors surgit cette question terrible que relaient bien des conversations sur les réseaux sociaux. Pourquoi mettre des enfants au monde? Il y a 60 ans, le poète de Bosnie-Herzégovine, Mac Dizdar, avait capté ce sentiment de vertige, cette sourde angoisse qui nous saisit face à la naissance d'un petit être parfaitement vulnérable dans ce monde terrifiant. Il écrit cette berceuse que Catherine Salvia va faire renaître en lui prêtant sa voix. Madame, c'est un honneur de vous entendre.
Comme tu es doux et fragile, et pourtant, il te faut vivre. Il te faut vivre parmi les hommes, mais tu n'as pas de parole. Il te faut vivre parmi les loups, mais tu n'as pas de dents. Et comment distingueras-tu un homme d'un loup? Un loup d'un homme? Tes mains sont l'azur, invoquant l'aube. Et avec elles, quand même, tu dois t'affronter aux batailles sur les lignes de fracture, aux monstres serpents, les demeures du dragon. Alors, qu'elles grandissent vite, tes mains, qu'elles croissent et se fortifient plus vite encore. Tu es venu ici, là où venir était le moins bienvenu, là où il était le plus fou d'arriver, là où pourtant il était le plus héroïque de renaître. Car ici, on ne vit pas seulement pour vivre. Ici, on vit pour mourir. Et ici aussi, on meurt pour apprendre à vivre.
La naissance d'un enfant, un être encore parfaitement innocent, agit comme un révélateur, un miroir inversé. Par contraste, la noirceur du monde apparaît avec davantage d'acuité. On ne devrait se préoccuper que de sa fragilité, car comme le dit Aragon, rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. Mais en réalité, c'est sa vulnérabilité qui se révèle la plus inquiétante. Cette inlassable menace que le monde extérieur, dans sa dureté, le blesse à mort. Dans l'Apocalypse, Jean réussit à rendre cette angoisse sourde par une image, celle du combat de la femme et du dragon. Jean fait de la théologie sous forme de pièces de théâtre cosmique. Des scènes s'enchaînent pour donner à voir le monde tel qu'il est.
Parut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue de soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail de l'enfantement et dans ses douleurs. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. De sa queue, balayant le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. Le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde.
Vous l'avez entendu, il s'agit d'un signe, c'est-à-dire d'une communication sous forme symbolique au lecteur de décrypter de quoi on lui parle. Qu'il prenne l'Ancien Testament pour le feuilleter et qu'il se plonge dans les légendes du Proche-Orient ancien pour en découvrir la signification. La femme, aux dimensions cosmiques, qui fait du soleil son manteau et de la lune son marchepied, est une allégorie. Un détail en donne le sens. Elle est couronnée de 12 étoiles, comme les 12 tribus d'Israël. Elle représente donc le peuple élu. Elle est l'image de la communauté. Quant au dragon, il n'est pas difficile de savoir qui il est. De couleur rouge, agressif, destructeur, au point de faire choir les étoiles sur Terre, il est la figure même du mal, ce qui rompt l'équilibre du monde, transforme ce qu'il y a de plus lumineux en noirceur. Il se dresse éternellement contre la communauté dans un combat issu des antiques mythes de l'humanité. La guerre incessante des forces serpentines du chaos contre les forces de l'ordre. La suite du texte précise l'image.
Elle donna le jour à un enfant, un mâle, celui qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône. Et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours.
L'indice, cette fois-ci, c'est le sceptre de fer. Rappelons le psaume 2 que les chrétiens ont toujours lu comme annonçant la naissance de Jésus. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande et je te donne en héritage les nations et pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. » Alors on voit la différence que fait subir l'auteur du texte à travers sa lecture messianique. Alors que le psaume parlait de victoire sur les nations, Jean superpose à la métaphore du sceptre dévastateur celle de la houlette du berger pour faire du Messie le bon pasteur qui fait paître les nations comme un berger mène ses brebis au pâturage. Si l'enfant qui naît est bien Jésus, alors qui est cette femme ? Deux images se recouvrent. Si l'on suit le symbolisme hérité de l'Ancien Testament, il s'agit bien entendu de l'Église, car les prophètes ont annoncé que le Messie viendrait du milieu de la communauté. Mais évidemment, on peut aussi donner un visage plus précis à cette mère, car qui engendre le Messie, le Christ, si ce n'est Marie, la mère de Dieu ? Il est très important de maintenir les deux lectures ensemble. L'assimilation de la femme de l'Apocalypse à la Vierge Marie est assez tardive dans l'histoire des interprétations du texte. Elle ne s'impose véritablement qu'au début du XVIe siècle. Et donc, il faut se rappeler que le texte évoque surtout un collectif. La femme est à la fois l'Église et Marie. Et ces deux lectures, bien loin d'être incompatibles, se complètent. Marie n'est-elle pas proclamée Mater Ecclesiae, la mère de l'Église, depuis Ambroise 2000 ans. Dans le texte, de manière surprenante, la communauté fuit. Où va-t-elle ? Dans le désert. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'êtres humains. C'est un lieu que le livre du Deutéronome décrit comme grand, terrible, peuplé de serpents brûlants et de scorpions, un chaos de hurlements sauvages. Bref, c'est le lieu même de la vie nue. Une vie qui n'est que le seul fait d'être en vie. La survie plutôt que la vie. Une existence en totale vulnérabilité, en totale dépendance. Une vie sans aucun droit, sans aucune protection, sans aucune solidarité. Une vie glaciale, parce qu'elle est dépourvue de la chaleur humaine. Et pourtant, comme le dit le texte, cet absolu dénuement est le lieu de Dieu. Manquant de tout, c'est le lieu où l'on peut tout recevoir. Que l'on comprenne bien ce qui est dit ici. Partout ailleurs, le texte de l'Apocalypse parle de bataille, de guerre. Et souvent, les partisans du Christ sont appelés à se préparer au combat. Loin du texte, la résignation. Surtout, ne pas tomber à genoux, en prière, en attendant le coup fatal. Non, le retrait au désert de la femme n'est pas une dérobade. C'est un mouvement tactique. Le choix délibéré de retrouver l'endroit où l'on retrouve le secours. En effet, la totale vulnérabilité rend réceptif à la relation aux autres. Et finalement, au tout autre, à celui qui maintient tout en vie. Car voici le premier enseignement de ce texte. La femme communauté est reine de la paix parce qu'elle refuse l'affrontement direct avec le mal. Et la suite du texte va nous l'expliquer.
Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne purent vaincre. Pour eux, désormais, plus de place dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme le diable ou Satan, le séducteur du monde entier. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Si la mère du Messie, l'Église, ne combat pas directement le mal, c'est qu'elle sait qu'elle n'est pas celle qui est destinée à le vaincre. Son premier souci, c'est de préserver la vie donnée. Un autre se charge de son salut, et vous l'avez entendu, il ne faut rien moins que Michel et ses légions angéliques pour venir à bout du Satan et de ses hordes démoniaques. Il y a là beaucoup à apprendre. Quand je suis arrivé dans l'Église, je me souviens de discours exaltés et exaltants. Nous, les jeunes, allions nous comporter de manière exemplaire. Nous allions être parfaits, comme notre Père est parfait. Par le pouvoir de la prière, de la rectitude morale, de l'engagement dans l'évangélisation, nous allions faire mieux que nos aînés. Nous allions transformer l'Église pour en faire la vraie communauté, telle que le Christ la voulait. Et à partir de cette forteresse du bien, nous finirions par envoyer nos milices pour triompher de la civilisation de mort qui nous entourait. Il n'est pas dans la nature de l'Église de se constituer en société parfaite. Comme il n'a pas été dans l'intention de Jésus de créer un groupe d'apôtres irréprochables en expulsant Judas. Saint Paul le dit et le répète dans toutes ses lettres. Notre salut a déjà été fait sans nous. Et un autre a pour mission de vaincre notre péché. La semaine de la Passion qui s'ouvre avec ce dimanche des rameaux va le remémorer. C'est le Christ qui triomphe du mal, pas l'humanité. Et il y a dans cette cathédrale, juste derrière moi, une insigne relique qui nous le rappelle, la relique des reliques. Celle qui coûta à Saint-Louis la moitié des revenus du royaume de France, la couronne d'épines. Et c'est exactement ce que dit la suite du texte. Ce qui sauve, c'est le sang rédempteur du Christ, agneau de Dieu.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Voici maintenant le salut, la puissance et le règne de notre Dieu ». Voici le pouvoir de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Ayant renoncé à l'amour de la vie jusqu'à mourir, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, car il ne lui reste peu de temps, et il le sait. »
Cette proclamation énergique, venue du ciel, c'est-à-dire de Dieu lui-même probablement, nous fournit un deuxième enseignement. La reine de la paix n'emploie pas les moyens du mal pour faire la guerre. En effet, si c'est bien le sang de l'agneau qui permet de vaincre le dragon, cela ne signifie pas que les êtres humains doivent demeurer passifs face au mal. Il importe de le combattre, et avec énergie. Mais il faut le faire avec les ressources que le Nouveau Testament dans son entier recommande avec unanimité. Le réalisme face à l'implacable dureté du monde. Qui aime sa vie la perd, affirme Jésus dans les quatre évangiles. Il y a beaucoup de dangers, et j'en suis conscient, à glorifier ainsi ce passage par l'épreuve. On connaît assez les écueils du dolorisme. On sait aussi les dangers de la résignation face à l'injustice, face à la douleur. Une résignation qui écrase toute capacité d'agir. Et on voudrait avoir toujours les forces, toujours l'intelligence, la volonté de s'opposer toujours. Mais voilà. Il y a des moments où l'on n'a pas d'autre choix que d'affronter la réalité et de tenter de donner sens à ce chaos qui est devenu notre existence ou notre corps. Faire face à une vie en désordre, voici l'ultime courage. Pierre Teilhard de Chardin écrivit un jour une magnifique préface à un livre écrit par Monique Givelet pour présenter la vie de sa sœur. Marguerite Marie Teilhard de Chardin avait en effet passé sa vie dans la maladie, mais elle était pourtant d'une activité intense. Elle était présidente de l'Union catholique des malades, réseau de prières et de soutien mutuel. Écoutons cette préface.
À chaque instant, la souffrance totale de toute la terre. Si seulement nous pouvions cette grandeur redoutable la recueillir, la cuber, la peser, la nombrer, l'analyser, quelle masse astronomique, quelle somme effrayante. Et depuis la torture physique jusqu'aux angoisses morales, quel spectre raffiné de nuances douloureuses. La souffrance, d'abord traitée en adversaire, qu'il s'agit de défaire. La souffrance, vigoureusement combattue jusqu'au bout. Et cependant, en même temps, la souffrance rationnellement et cordialement reçue. Oh, Marguerite, ma sœur, pendant que, vouée aux forces positives de l'univers, je courais les continents et les mers, passionnément occupée à regarder monter toutes les teintes de la terre, vous, immobile, étendue, vous métamorphosiez silencieusement en lumière, au plus profond de vous-même, les pires ombres du monde. Au regard du Créateur, dites-moi lequel de nous deux aura-t-il eu la meilleure part ?
Vous, immobile, étendu, vous métamorphosiez silencieusement en lumière, au plus profond de vous-même, les pires ombres du monde. C'est beau, n'est-ce pas ? C'est vraiment beau et c'est peut-être l'occasion de rappeler que il y a 70 ans, le père Teilhard de Chardin mourait juste pour la fête de Pâques. Manière de s'en souvenir. On est souvent étonné par le fait que, jusqu'au XVIIIe siècle, de nombreuses vierges à l'enfant n'ont pas ce visage plein d'amour qu'on attend d'une mère en train de présenter son fils. Elles ont un visage douloureux, triste, parfois dur. Même la Vierge au pilier de la cathédrale Notre-Dame de Paris n'est pas au premier abord très sympathique. Elle arbore des traits sévères et bien loin de sourire, disons-le, elle fait la tête. Il y a là, à ce fait, une raison théologique profonde qui rejoint exactement ce que Teilhard de Chardin dit de sa sœur. En effet, Marie incarne l'attitude même auquel est invité tout être humain. Prévenue dès la présentation au temple qu'un glaive lui traversera l'âme, elle ne cesse de méditer en son cœur tous les événements auxquels elle est confrontée. En la représentant ainsi torturée, les artistes veulent indiquer cette douloureuse conscience que la victoire du Christ sur la mort s'acquiert au prix fort. Il y a toujours quelque chose d'une piéta derrière une vierge à l'enfant. Et voilà le modèle, celui d'une femme qui, par amour, prend la décision de ne pas suivre ce que lui commanderait de faire ce même amour compris de manière égoïste. Elle ne tente pas de se mettre en travers du chemin de son enfant pour l'empêcher d'accomplir sa destinée. Et pourtant, elle le pressent. La voie qu'il emprunte conduit tout droit à sa souffrance abyssale de mère. Le consentement de Marie est, pour ainsi dire, hyperbolique. Il touche aux limites même de ce qui est humainement possible. Et il est bien étranger à toute résignation. Marie est donc bien reine de la paix, parce qu'elle fait le choix d'employer d'autres moyens que ceux du mal, pour, comme le dit Teilhard, combattre la souffrance vigoureusement jusqu'au bout. Retrouvons une dernière fois le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse pour apercevoir une ultime raison de nommer la Mère du Christ Reine de la Paix.
Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme les deux ailes du grand aigle pour s'envoler au désert, là où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Alors, le serpent lança de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve, afin qu'elle se fasse entraîner par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait craché de sa bouche. Et le dragon fut rempli de fureur contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de ses enfants, à ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus.
Nous voilà très surpris. Pourquoi l'auteur répète-t-il deux fois la même narration ? Pourquoi reparler encore du séjour au désert ? Le dragon n'a-t-il pas été vaincu ? Michel a-t-il fait mal son travail d'archange stratège passé par l'école de guerre ? C'est que les événements précédents se déroulaient au ciel et voici qu'on se trouve sur la terre. Si la femme était jusqu'à présent une figure idéale, céleste, de la communauté, de l'Église, de Marie, elle en est désormais l'incarnation bien concrète. Elle est la communauté chrétienne et elle nous présente ses enfants. Répéter les événements permet aussi aux voyants de les enrichir de détails nouveaux pour nous faire comprendre un autre aspect de ce combat face au mal auquel tout être humain est appelé. Le texte, en effet, nous donne une description toujours plus complète de la fureur du dragon et nous montre à quel point il s'agit d'une figure de déséquilibre. Au début du texte, vous vous en souvenez, il cherchait déjà à perturber l'ordre du monde en tentant de déstabiliser ce qui constitue l'un des éléments de la pérennité de ce monde, les étoiles dans le ciel. Ces luminaires dont la régularité de mouvement sert à nous repérer. Et voici qu'il cherche à introduire toujours plus de chaos dans le monde en vomissant un fleuve d'eau. Cela peut nous surprendre, tant nous sommes habitués aux dragons cracheurs de feu des mythologies nordiques, mais voilà un dragon aquatique. Ce qui permet à l'auteur d'inverser les valeurs. L'eau, en effet, est un symbole extrêmement ambigu dans la Bible. Dieu n'a-t-il pas créé le monde en l'organisant à partir du chaos primordial représenté comme une sorte d'océan? L'eau a partie liée avec le désordre,